Juste après la Pentecôte, Pierre fait un discours, un sermon qui sera son premier discours et qui va lancer l'Église. Et ce discours va convertir, nous dit le texte, 3000 âmes. Et évidemment, en tant que prédicateur, je n'ai donc qu'un désir, c'est d'arriver à faire un discours aussi efficace, voire même de dire, puisque ce discours de Pierre est bon, pourquoi est-ce que je me fatigue à faire des sermons? Je n'ai qu'à vous lire le discours de Pierre. Or voilà ce qui m'interroge depuis des années, c'est que moi-même, quand je lis ce discours de Pierre, je n'y trouve à peu près rien. Enfin, rien d'intéressant, rien qui me bouleverse, rien qui me passionne, rien qui me convertisse. Et je doute beaucoup qu'aujourd'hui, ce discours en l'état puisse vraiment convertir du monde. Et donc j'ai voulu essayer de rentrer dans ce texte et de me demander vraiment, mais finalement, qu'est-ce qu'il a dit, Pierre? Et comment est-ce qu'on peut arriver à récupérer cela, je dirais, se le réhabiliter pour nous-mêmes aujourd'hui? Eh bien, j'ai quelques idées, je vais essayer de vous les partager. La première, c'est que Pierre ne commence pas par faire un sermon, il commence par parler de ce que les gens qui sont là ont pu observer. En effet, les apôtres sont dans un état de joie, d'exultation, de fête extraordinaire et qui intrigue tout le monde. Et il dit « Vous tous, là qui êtes là, ces hommes ne sont pas ivres, mais c'est qu'ils ont reçu l'Esprit ». Et c'est ce qu'a annoncé Joël, le prophète, en disant, vous savez, Dieu a dit que d'un jour ou l'autre, il redonnerait son esprit et que ce jour-là serait magnifique, qu'il y aurait des prodiges et des miracles dans la terre, sur la terre. Et donc il part de cela, c'est-à-dire de la joie des apôtres, de ces chrétiens qui sont incroyables de joie, de liberté. Et donc je dirais que si vous voulez convertir le monde, et si nous voulons convertir le monde, la première chose à faire n'est pas d'aller abreuver les gens de discours moralisateurs, mais c'est de donner le témoignage de ce que l'Esprit fait dans les chrétiens. Et le premier témoignage des chrétiens, c'est que le chrétien sache vivre heureux, joyeux, exultant de joie, et comme quelque chose qui semble, je dirais, surnaturel et absolument pas ordinaire. Alors, Pierre dit que c'est tout à fait prévu, parce qu'en effet, dans le judaïsme, on pensait que le Saint-Esprit avait soufflé au départ, parce que quand on lit l'Ancien Testament, on se rend compte qu'il s'était passé des choses incroyables. Avec Abraham qui part, appelé par Dieu, Moïse qui traverse la mer Rouge, qui monte sur le Sinaï, le don de la loi, l'entrée en Canaan, tout ça, ce sont des histoires incroyables d'un peuple qui vit accompagné par son Dieu. Et le judaïsme disait qu'après les derniers prophètes, eh bien, le Saint-Esprit ne soufflait plus, et qu'il n'y avait plus qu'une chose à faire, c'est d'obéir à la loi. Et donc il y a des commandements, obéissez aux règles, soyez moralement justes, soyez de bons pratiquants, faites les rites. Et finalement, ils étaient tombés dans une religion où il n'y avait plus de joie, plus de liberté, je dirais plus de folie, mais simplement le scrupule et l'obéissance. Et donc là, on voit ce qui se passe, où Pierre dit, vous voyez, il y a là aujourd'hui quelque chose de neuf qui vous est donné. C'est une religion qui n'est pas dans le scrupule, qui n'est pas dans la tristesse, je dirais, des interdits ou de la morale, mais dans une religion qui doit vous transformer, vous remplir de joie, d'espérance et de vie. Et ça, nous dit le prophète, ça n'est pas réservé, Joël, ce n'est pas réservé juste à Moïse, à la caste des prêtres, etc. Mais dit bien la prophétie, si vous la lisez, je le donnerai ça pour tous, pour mes servantes, pour mes serviteurs, pour tout le monde. C'est-à-dire que ce don de l'Esprit, il n'est plus réservé aux prêtres seuls, aux prophètes seuls ou aux spécialistes de la religion, mais à tous, à tout le monde. Ça, c'est formidable. Religion ouverte au peuple et chacun peut s'improviser prophète et chacun peut vivre sa relation avec Dieu qui le transforme et qui le vivifie sans être obligé de s'asservir à une église. Et puis, j'aime aussi la promesse de Joël, qui dit « Et à ce moment-là, je ferai des choses incroyables, des prodiges, des miracles, des choses magnifiques. » Et ça, je crois que c'est vrai. C'est une promesse réelle, et on le voit chez certains croyants, et j'espère peut-être en vous. Si vous accueillez cette présence de l'Esprit par Jésus, eh bien, dans votre vie, il y a des choses extraordinaires qui peuvent arriver. Il y a de la nouveauté, de l'imprévisible, il y a des explosions, je dirais, de joie, d'imprévus, de fêtes que l'on ne pourrait absolument pas imaginer, de l'extraordinaire. Et j'aime cette idée de l'extraordinaire. Paul le dit à un autre moment en disant, vous savez, la sagesse de Dieu est folie pour les hommes. Et j'aime que l'on puisse dire que finalement, dans le chrétien, il y a quelque chose de l'ordre de la folie. La folie de celui qui est capable de ne pas rester toujours dans le mesuré, dans le raisonnable, mais qui est capable d'un enthousiasme extraordinaire qui finalement est comme un raz-de-marée de joie et de vie qui bouleverse les barrières, qui bouleverse les tristesses, les deuils et tout, mais quelque chose qui déborde en quelque sorte, une joie débordante. Et ça aussi, j'aime ça parce que il y a quelques années, pour les catéchumènes, lors des confirmations, nous avions prêché sur ce thème, reprenant une parole de Jésus, « Que faites-vous d'extraordinaire ? Que faites-vous d'extraordinaire ?» Et nous avions dit à ce moment-là aux catéchumènes, « Vous voyez, vous dites que vous voulez être chrétien. Mais être chrétien, ce n'est pas de se dire, « Bon, alors d'accord, je vais rester honnête, je ne vais pas trop mentir et pas trop voler, et je vais aller à l'église de temps en temps pour soigner ma conscience. » Mais être chrétien, ça n'est pas ça. C'est quelque chose d'extraordinaire, faire quelque chose qu'un humain ne ferait pas, que le commun des mortels ne ferait pas. Et être chrétien, c'est être appelé à sortir, je dirais, de l'autoroute de ce monde triste, matérialiste, décourageant, désespérant, où on ne nous annonce que des catastrophes, que des restrictions, que des problèmes, des réchauffements climatiques et des crises politiques, sociales, économiques et tout ce que vous voudrez. Faites quelque chose d'extraordinaire. Il y a en vous un potentiel extraordinaire, divin, génial, qui fait que vous pouvez être des êtres extraordinaires. Et là, j'en veux un peu à ma société française, je dirais, qui milite tant pour la laïcité. La laïcité, c'est de dire aux gens, surtout pas de religion. Alors bon, ceux qui ont la chance d'en avoir, je crois que c'est bien. Mais du coup, on va dans nos banlieues et on dit aux jeunes, surtout, ne croyez en rien, n'ayez pas de foi, ou ne la montrez pas, ou que ça ne se voit pas. Comment voulez-vous que ces jeunes puissent s'enthousiasmer, je dirais, d'un monde qui ne leur donne aucun enthousiasme, aucun idéal, aucun extraordinaire? Et je comprends qu'ils soient à ce moment-là sensibles au premier qui va arriver sur Internet et qui lui dit, vous pouvez avoir un destin extraordinaire, vous pouvez sauver le monde, l'islam, le christianisme, je ne sais quoi, faites quelque chose d'unique que les autres ne font pas. Je comprends ça. Parce que moi-même, si je suis devenu pasteur un jour, quand j'ai voulu l'être alors que j'avais 19 ans, c'était ça. Je me suis dit, alors voilà, mon chemin est tout programmé. Je vais faire une grande école, je vais avoir mon diplôme, je vais être bien sage, je vais gagner ma vie, je vais travailler le matin, rentrer le soir, etc. Et je me suis dit, je peux faire quelque chose d'extraordinaire. J'en vois tout balader et je fais de ma vie une folie de joie, de service, d'amour, d'espérance, et je vis autrement. Et donc oui, je pense que, effectivement, c'est peut-être ça qui est finalement a touché ces gens qui étaient là. C'est l'émergence de l'extraordinaire. Et en gros, il dit à ces gens que l'exemple donné par ces apôtres n'est pas un exemple unique, mais que c'est possible pour vous, et que pour vous, vous tous, votre vie, elle peut aller au-delà du métro, boulot, dodo, ou au-delà du fait de se dire, voilà, donc je suis tombé malade, donc ma vie c'est d'aller à l'hôpital, de revenir, faire mes soins, etc. Mais il y a un destin extraordinaire, parce qu'il y a en vous un potentiel, et il y a un esprit qui vient de Dieu qui peut transfigurer votre existence. Alors comment avoir cet esprit d'extraordinaire et de folie? Eh bien, curieusement, là, Pierre va faire un crochet par ce qu'on appelle la christologie. Et il va dire, écoutez ça, Jésus de Nazareth, cet homme approuvé par Dieu. Déjà là, petite parenthèse que vous m'excuserez, c'est quelque chose qui embête beaucoup les théologiens, parce que la première christologie de Pierre, c'est de voir Jésus du côté de l'homme. Il ne dit pas Jésus, Dieu envoyé sur terre. Il dit Jésus, un homme approuvé par Dieu. Donc c'est une christologie humaine. Les théologiens disent c'est une christologie primitive. Personnellement, je suis un peu primitif et ça me convient très bien. Mais en tout cas, ce qu'il veut dire, c'est que pour retrouver cet esprit extraordinaire, première chose à faire, se tourner vers Jésus et le reconnaître, ne pas le mettre de côté. Ensuite vient ce qui m'a donné le plus de fil à retordre et qui est peut-être la clé, ou en tout cas une clé possible, c'est celle que j'ai trouvée, qui m'a permis de déverrouiller ce discours de Pierre dont je vous disais qu'il me semblait curieux et insignifiant. C'est ce que dit Pierre. Il dit « Cet homme, donc, vous l'avez fait mourir. » Il dit « Cet homme, vous l'avez crucifié. » Et ça, je me dis, comment peut-il dire ça? C'est très injuste. Je dirais, toutes les personnes présentes qui étaient là n'étaient pas forcément là le jour de la condamnation de Jésus. Ils n'étaient même certainement pas là au pied de la croix. Comment peut-il imaginer que tous les Juifs aient été d'accord pour crucifier Jésus? Comment peut-il accuser globalement l'ensemble de ceux qui l'écoutaient en disant « Vous avez crucifié Jésus » sans compter que tous les Juifs n'étaient pas à la résurrection et qu'à la Pentecôte, on nous dit qu'il y avait des gens qui étaient venus des quatre coins du monde, Parthes, Mèdes et Lamites venant de la Phrygie, de la Cappadoce et d'autres endroits. Ces gens n'étaient pour rien dans la crucifixion du Christ. Et donc, comment peut-il dire « Cet homme, vous l'avez fait mourir ». Alors je me dis, oui, tiens, dire que finalement la base de tout ça, c'est de se dire que je suis moi-même celui qui a crucifié Jésus. Et là, ça fait remonter en moi des vieilles leçons de catéchisme que je vomis, pour tout vous dire. Quand on m'enseignait étant enfant, pour me faire la morale, chaque fois que tu oublies Jésus ou Dieu, tu le crucifies. Chaque fois que tu fais le mal, c'est toi qui crucifies Jésus. Comme si c'était mon péché, mon imperfection qui, jour après jour, recrucifiait Jésus. Je ne pense pas que ce soit ce que veuille dire Pierre, ou plutôt j'espère que ce n'est pas ce qu'il veut dire. Parce que moi j'en ai assez qu'on me culpabilise de tout. Je me sens déjà sans arrêt coupable de tout, de beaucoup de choses. Et si je viens à l'église pour qu'on m'en rajoute une couche et qu'on me dise non seulement tu es coupable de ne pas avoir fait ci, ne pas faire ça, et en plus c'est toi qui as crucifié Jésus. Alors moi j'en ai assez. Cette mode de dire que nous serions coupables de tout et même des choses où nous n'étions totalement absents est insupportable. Et c'est pourtant la mode aujourd'hui. Alors le pape demande pardon pour la Saint-Barthélemy. Je ne sais même pas s'il le fait d'ailleurs, mais pourquoi pas. Mais pourquoi les catholiques demanderaient pardon pour la Saint-Barthélemy? Il n'y était pas. Voilà. Et ce n'est pas moi non plus qui ai brûlé Michel Servet à Genève. Je n'y étais pas. Je n'y suis pour rien. Donc je n'ai pas brûlé Michel Servet, je n'ai pas fait l'Inquisition, je n'ai pas cassé le vase de Soissons, je n'y suis pour rien et je n'ai pas crucifié Jésus. Voilà. Et donc non, cette solution est insupportable. Par contre, ce que je pense peut-être plus juste, c'est de dire finalement, crucifier Jésus, faire mourir Jésus, c'est simplement refuser sa résurrection. C'est-à-dire le déclarer mort. Et ça, c'est grave. C'est-à-dire, c'est en rester sur la croix. Et si vous regardez Jésus en disant simplement « Il est mort !» Ça, c'est terrible. Parce que vous dites, en gros, l'affaire est terminée, il a parlé, il a dit trois choses, cela ne nous intéresse plus, Jésus est mort, exit, on passe à autre chose. Eh bien, ça, c'est grave. Parce que ça, c'est tuer Jésus une deuxième fois, c'est rester bloqué sur le mal, rester bloqué sur la mort, au lieu d'aller plus loin. Et je dirais la même chose dans nos services funèbres. Quand nous faisons des services funèbres pour des gens qui sont morts, ce que nous disons, c'est qu'ils sont vivants. Et nous disons, ces gens-là, ils sont vivants, ils nous accompagnent par tout ce qu'ils nous ont transmis, par l'amour qu'ils nous ont donné, par ce qu'ils ont fait, par ce qu'ils ont été. Et tout ça, c'est une force de vie qui reste avec nous. Et finalement, donc, ces gens sont vivants. Et ce serait horrible, au moment d'un service funèbre, de dire « Un tel, il est mort. Il est dans la tombe, il est dans le trou, il est dans le cercueil. » C'est faux, parce que c'est faux. Voilà. Et c'est ce que font ces gens qui disent « Jésus, il est crucifié ». Et donc, finalement, je le dis et je le redis, la seule chose qui nous sauve, c'est la croyance dans la résurrection. Je crois d'ailleurs que c'est aussi ce que dit Jésus. On lit en général ce passage autrement, mais vous savez, quand un homme dit à Jésus « Je te suivrai bien, mais laisse-moi d'abord aller enterrer mon père ». Et Jésus dit « Arrête, laisse les morts enterrer les morts. Il l'empêche. Et je crois que c'est ça. N'enterre pas les morts. Parce que les morts ne sont pas morts, ils sont vivants. Et donc, il faut les garder vivants dans notre cœur et ne pas garder l'image, je dirais, de la tombe. La tombe n'est qu'un mensonge et la croix n'est qu'un mensonge parce qu'il y a quelque chose derrière la croix et il y a autre chose que la tombe. Et ça, c'est la base de tout. Si on croit dans cela, alors on peut avoir la vie. Affirmer que Jésus serait mort, ce serait dire qu'il était fini, qu'il aurait échoué dans sa mission, qu'il n'était pas le Messie. C'est le crucifier une deuxième fois. Voilà. Alors du coup, effectivement, Pierre a raison. La clé de tout ça, c'est de croire dans la résurrection. Finalement, c'est ça. De croire dans la résurrection. Et là, je jubile. Parce que vous connaissez tous peut-être un peu mes idées pas très orthodoxes sur la résurrection. C'est-à-dire que... Enfin, vous allez voir. Et donc, j'ai l'impression que là aussi, Pierre, va nous faire une leçon de théologie. Et il va faire un deuxième détour qui passe par David. Et il dit donc au verset 25, « David a dit, voilà pourquoi mon cœur se réjouit, etc., etc., car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, tu ne laisseras pas ton sein avoir la corruption, etc. » Et donc ce qu'il dit, c'est que le psaume annonce que David ne mourra pas. Et donc dans le psaume, il y a justement cette foi dans la résurrection, où David dit « Mais non, je ne mourrai pas, je ne suis pas condamné à mort. Mais, dit-il, ma chair reposera en espérance, car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts. » Alors ça, c'est une belle promesse. Nous ne sommes pas condamnés à mort. Et nous ne sommes pas condamnés non plus à considérer comme morts ceux qui nous ont précédés. Et donc, nous ne sommes pas condamnés à subir la mort de ceux que l'on aime. Mais il y a des promesses extraordinaires. En disant « Je vous donnerai la joie de reposer en espérance, la libération de la mort, pas de corruption, un chemin de vie, de bonheur et de la présence de Dieu. » Ah oui, tout ça, ça me va. Et donc Dieu promet la vie et la résurrection à David, mais comment? Et c'est là, vous disais-je, que Pierre est incroyablement révolutionnaire. Parce qu'il dit aux gens, mais très brutalement, il dit « Frère, mais qu'il me soit permis de vous dire une chose au sujet de David. » C'est qu'il est mort et qu'il a été enseveli et que sa tombe est encore ici aujourd'hui parmi nous. Et donc Pierre est là très brutal. Il dit bien sûr, David est mort physiquement. Et donc ce qu'il nous enseigne là, et c'est ce que j'ai découvert, c'est que la résurrection qui nous sauve, ce n'est pas de croire que historiquement, un jour ou l'autre, Jésus aurait retiré 3 bandelettes de son visage pour ensuite remonter au ciel 30 jours ou 40 jours plus tard. La résurrection qui nous sauve, c'est de croire dans une résurrection qui n'est pas physique. Ça n'empêche pas que Jésus soit ressuscité physiquement si vous y croyez. Mais ce qui nous sauve, ce n'est pas cela. Ce qui nous sauve, c'est de croire dans une résurrection qui est d'un autre ordre. Et donc, comme David est mort physiquement, mais en fait, voilà, il est quand même vivant autrement. Il est vivant autrement dans le Christ, c'est-à-dire spirituellement, dans l'esprit, justement cet esprit qui fait vivre et qui est donné à la Pentecôte. Alors cette dimension de l'esprit qui vit éternellement, Dieu l'a fait, nous dit le texte, Seigneur, plus grande que tout, plus essentielle que toute vie physique et que toute vie matérielle qui de toute façon doit finir, mais grâce à cela, nous le savons, la vie n'est pas que le matériel. La vie n'est pas que le boire et le manger. La vie n'est pas que le corps, la vie est beaucoup plus que le corps, beaucoup plus que le vêtement, et la vie, le sens de votre vie, est beaucoup plus que de rester jeune, ou beaucoup plus que de ne pas attraper de cancer, ou beaucoup plus que de gagner beaucoup d'argent. Justement, votre vie, elle est dans la transcendance, et c'est ça qui change la vie, de voir sa vie, justement, au-dessus du niveau des pâquerettes. Alors, vos pâquerettes, faites-en ce que vous en voulez, ça n'intéresse absolument pas le religieux. Vous pouvez être riche, pauvre, malade, en bonne santé, joli, moche, réussite ou SDF, aucune importance. Mais votre vie, elle est quelque chose qui est au-dessus et qui n'a rien à voir avec tout cela. Et quand on arrive à comprendre qu'il y a justement en Dieu une puissance de l'esprit qui nous tire vers le haut, qui nous prend par les cheveux pour nous soulever au-dessus de la grisaille du monde, eh bien là, c'est extraordinaire parce que c'est une résurrection. C'est une résurrection qui fait que le monde lui-même ne peut plus nous accrocher par les pieds pour nous tirer vers le bas dans le désespoir ou dans la mort. Et c'est ça qui nous donne, comme il le dit juste au-dessus, la joie de reposer en espérance, la libération de la mort, qu'il n'y ait pas de corruption, chemin de vie et de bonheur. C'est ça la résurrection, une puissance de vie, de paix, de joie et de renouveau qui nous est offerte. La promesse est belle, et oui, je rêve de cela. Quelque chose qui me sorte de toutes mes embrouilles du monde, de toute la grisaille du monde, et qui me remplisse de joie et d'extraordinaire. Et donc je comprends que les gens qui écoutaient disent, c'est écrit verset 37, il dit « Entendu cela, ils eurent le cœur vivement touché ». Le texte dit « Le cœur transpercé par ces paroles ». Alors, ils disent à Pierre « Alors, que ferons-nous ?» Et là encore, longtemps, j'ai cru qu'ils se demandaient ce qu'ils allaient faire puisqu'ils avaient reçu l'Esprit, qu'ils étaient convertis. Non, je crois que ce n'est pas ça. C'est qu'ils disent « La promesse est belle ». Et donc, qu'est-ce que je vais faire, moi, pour obtenir ça? Ça semble alléchant, ton affaire. Mais comment je vais faire pour trouver, obtenir, découvrir cet esprit qui va ressusciter ma vie? Alors, Pierre leur dit, « Repentez-vous, que chacun soit baptisé, etc., et vous recevrez le don de l'esprit. » Et donc là, c'est le résumé de la méthode de Pierre. Vous voyez, c'est très, très, très simple. Il y a une méthode. Premièrement, repentez-vous. Deuxièmement, soyez baptisés et ensuite sauvez-vous de cette génération perverse. Le repentez-vous, c'est la base de toute démarche spirituelle. C'est ce qui est présent dans toute liturgie. Le repentez-vous, c'est de, non pas de s'auto-culpabiliser, humilier, tout ça, c'est plutôt de dire reconnaissez déjà vos propres faiblesses. Reconnaissez que vous n'êtes pas Dieu, c'est ça en fait. Reconnaissez que vous n'êtes pas le centre du monde. Reconnaissez que vous n'êtes pas le meilleur, pas le plus important, et que l'essentiel de votre vie, ce n'est pas vous qui vous le donnerez, mais vous ne pouvez que le recevoir de Dieu et le recevoir des autres. La vraie grâce, elle se reçoit, et ce n'est que la grâce qui sauve. Donc faites ce que vous pouvez dans votre vie, mais reconnaissez que vous ne pouvez pas tout faire vous-même. Ça, c'est l'essentiel. Et donc cette espèce d'humilité qui me rend justement humble, est disponible, disponible aux autres et disponible à une puissance de Dieu. Et quand je dis « Seigneur, je suis faible, je suis pécheur, sauve-moi », eh bien là, j'ouvre ma porte à l'Esprit. Si je dis « Seigneur, je serre les dents, je vais y arriver, je serre les poings, je vais essayer encore plus », vous vous fermez à l'Esprit. Et vous croyez que vous allez y arriver, à vous sauver, à sauver le monde et à devenir éternel ? Idiot ! Vous n'êtes que des humains, vous êtes faibles, vous mourrez demain comme David. Et donc le seul salut, il vient d'ailleurs. Donc c'est ça, repentez-vous d'abord. Ensuite, dit-il, faites-vous baptiser. Vous savez, le baptême, c'est le signe de la grâce. Et ça, c'est extraordinaire. À l'époque, on baptisait en plongeant les gens dans l'eau. Et donc, faites-vous baptiser dans le Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire prenez votre vie et plongez-la dans la grâce. La grâce, c'est le don. Autrement dit, acceptez d'abord que, malgré cette humilité, acceptez déjà d'être pardonné, c'est-à-dire de ne pas vous sentir coupable. Je suis petit, oui, je suis faible et malheureux, je le sais, mais j'ai le droit d'exister. Et donc, je ne suis pas écrasé, si vous voulez, par cette repentance qui risquerait de me broyer, mais acceptez d'être à la fois humble, mais pardonné et aimé. Ça change tout. Et puis, se baigner dans la grâce, ça j'aime ça, comme l'escargot tout chaud, trempez-le dans l'huile, et bien votre vie, trempez-la dans la grâce. Trempez-la dans la grâce. Plongez votre vie dans la grâce, c'est-à-dire que vivez de la grâce et pour la grâce, et que votre vie ne soit que grâce. Parce que la grâce, c'est la gratuité. La grâce, c'est le don. Et donc, acceptez de donner. Faites de votre vie un don. Et la grâce, c'est aussi d'accepter la grâce. Acceptez les dons avec reconnaissance et simplicité. Et la grâce, c'est le pardon. Allez-y, pardonnez. Et acceptez aussi de vous sentir pardonné. Acceptez de recevoir, de donner, de pardonner et d'être pardonné. Et acceptez aussi, à un moment donné, d'aller aimer et d'être aimé. Acceptez de vous dire, la seule chose importante de ma vie, c'est finalement la grâce. Alors ça, c'est le mot chrétien pour dire les choses. Dans un langage d'aujourd'hui, je dirais accepter la gratuité, la générosité. Et puis le mot à la mode aujourd'hui, c'est la bienveillance. Pourquoi pas ? Acceptez, plongez votre vie dans la bienveillance. C'est ça qui sauve le monde. Et c'est ça qui sauve une vie. C'est ça qui change tout. Acceptez d'être aimé, d'aimer, de faire plaisir, de vous faire plaisir, d'être bienveillant et de vivre de la bienveillance. Et ça, c'est, Pierre a raison, c'est la base de tout. Et ça change une vie. Parce qu'on voit les choses complètement autrement. Et ça, ça donne de l'esprit pour soi et pour ses enfants. C'est-à-dire qu'on devient soi-même une source de grâce, de joie et d'une puissance de vie pour tout le monde. Accepter de se laisser transformer par Dieu, s'ouvrir à la puissance de Dieu pour soi et pour ses enfants. Et puis enfin, dit-il, sauvez-vous de cette génération perverse, c'est d'accepter effectivement d'agir différemment de tout le monde et de devenir à son tour prophétique. Et alors, vous verrez aussi quelle joie de folie pour vous et pour vos enfants. Donc oui, je comprends ce discours de Pierre. Finalement, il est écrit dans une autre culture que la nôtre et il faut tout retraduire. Mais dans le fond, je comprends que ce discours ait converti 3000 personnes. Parce qu'il y a là tout le programme et toute la promesse du fonctionnement même du christianisme. C'est-à-dire en quoi est-ce que nous croyons dans un Dieu qui nous pardonne, nous transforme, nous remplit de grâce, de joie et de paix, et comment cela passe par le Christ lui-même, qui est le vecteur de cette grâce, le témoin de cette grâce, et comment cette foi dans la résurrection du Christ, qui justement nous permet d'aller au-delà de la mort et de toutes les puissances mortifères du monde, nous amène dans un règne nouveau, qui est le règne de Dieu, de vie, de joie, de paix, d'espérance, et même de miracles et d'extraordinaires pour nous tous et nos enfants. Eh bien, frères et sœurs, ayons, comme ces premiers chrétiens, le cœur transpercé par cette parole, et heureux celui qui sait vivre de la grâce pour être lui-même un témoin de la grâce. Amen.